Bienvenue à tous dans le Labomatique, l'émission scientifique de Radio Campus Rennes. Au programme du Labomatique cette semaine, je vous propose d'interroger l'impact potentiel des ondes qui nous entourent au quotidien sur notre santé. Thématique controversée s'il en est une, elle nous est souvent présentée comme une évidence et laisse place aux théories les plus folles sur le web. Pour en parler avec moi en studio aujourd'hui, j'accueille Yves Le Drian. Yves Le Drian, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'université Rennes 1 et chercheur dans l'équipe Transcription, Environnement et Cancer au sein de l'Institut de Recherche sur la Santé, l'Environnement et le Travail, donc l'IRSET. Mm-hmm. Vos travaux questionnent notamment donc, l'impact sur la santé des rayonnements millimétriques. Je vous propose d'écouter un bref montage sonore pour lancer cet entretien et qui va déjà bien nous montrer que cet objet est loin de faire consensus.
Le Labomatique,
l'émission scientifique de Radio Campus.
Téléphone mobile et santé ? Mais moi j'étais totalement surpris de trouver cette brochure. Je savais même pas qu'il y avait l'ombre d'un problème. Je vais vous dire, moi mon fils, il parle à sa grand-mère avec le portable. Et pour moi il n'y a jamais eu aucun souci puisque c'était l'effet des gens qui sont un petit peu machin. Et là tout d'un coup, je vois que le gouvernement, que des agences professionnelles sortent des documents dans lesquels ils disent attention, il vaut mieux éviter de téléphoner en se déplaçant. Alors ça c'est...
Les nombreuses études disponibles ne permettent pas de mettre en évidence d'effets sanitaires avérés des radiofréquences. Toutefois, certaines publications évoquent la possible augmentation de risque de développement de tumeurs cérébrales.
Radiofréquences, santé, normes, exposition. Vous avez des questions ? Nous vous devons des réponses. Question numéro 5. Suis-je plus exposé quand j'utilise la 4G ? La 4G étant bien plus performante que les technologies précédentes, on pourrait penser qu'elle expose davantage aux ondes. Eh bien non.
5 milliards de téléphones qui circulent dans le monde, 5 milliards de façons de téléphoner, même si l'une semble primer sur les autres.
Vous utilisez comment votre téléphone portable ?
Bah, comme ça.
Vous ?
Comme ça.
Et vous ?
Ah, la belle.
Et quand vous dormez, vous les rangez comment ?
Bah, je le mets sur ma table de nuit.
Et vous ?
Pareil.
Et vous ?
Pareil. Pareil.
Et vous les gardez où ? Dans votre poche ?
Dans la poche.
Dans la poche.
Pareil, dans la poche.
Pareil, dans la poche.
Le Labomatique.
L'émission scientifique de Radio Campus.
Alors Yves Le Drian, dans ce montage, on a donc entendu différents extraits d'émissions, hein, passées à la télévision ou à la radio, des interviews aussi, dont certaines datent d'il y a plus de 10 ans. On voit donc que l'intérêt pour l'impact potentiel qu'auraient les ondes sur notre santé, ça date pas forcément d'hier. Depuis combien de temps on s'intéresse à ces liens entre ondes millimétriques et leur impact sur la santé ?
Alors pas que les ondes millimétriques, hein, les radiofréquences en règle générale. Les premières études, en fait, démarrent avec le radar tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, mais c'était très épidosique. Il y avait très très peu de laboratoires à s'occuper de ce domaine-là. Et ça a commencé à exploser le nombre d'études sur ce domaine après l'avènement du téléphone portable, donc les années 90. Avec un pic de recherche assez important dans les années 2000-2010, beaucoup de publications ont été faites sur ce domaine.
Aujourd'hui, c'est principalement le téléphone portable qui pose question aux chercheurs, on imagine ?
Oui, parce que c'est la source d'exposition numéro un en termes de puissance. L'ordre d'idée, un petit peu, si vous voulez voir, c'est par rapport à une exposition par une antenne relais, exposition antenne relais, l'énergie électromagnétique que l'on reçoit, ça correspond, après un mois d'exposition à une antenne relais, à peu près quelques minutes de conversation au téléphone. Donc d'accord. C'est vraiment le téléphone qui vous expose à la dose électromagnétique la plus forte.
D'accord, alors je le précisais en introduction, vous êtes intéressé donc, et vous intéressez encore, à l'impact potentiel, donc le terme est vraiment important à souligner, hein, c'est l'impact potentiel des ondes millimétriques sur la santé. On va peut-être déjà préciser un peu de quoi on parle pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément experts. Les ondes millimétriques, pourquoi ? Il me semble qu'il y a un déplacement vers les fréquences millimétriques qui tient en fait à la saturation des basses fréquences. Est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer un peu tout ça ?
Oui, ça vient en fait du fait qu'on a des besoins en haut débit de plus en plus importants. Comment dire, les systèmes de radiofréquence actuellement utilisés en téléphonie commencent un petit peu à être saturés pour pouvoir permettre ce haut débit. Donc les électroniciens sont en train de se tourner vers de nouvelles fréquences, un petit peu décalées, vers des fréquences un peu plus élevées, qui leur permettront de faire des transferts à plus haut débit, vraiment très très fort. Et donc on va utiliser dans les années à venir très certainement ces ondes millimétriques. Elles commencent un petit peu à apparaître dans le domaine de la télécommunication. On commence à voir les premières télévisions sans fil, les premiers ordinateurs avec des puces 60 GHz, ça commence doucement. Le 60 GHz sur lequel je travaille, ça sera certainement dans les années 2020, ce qui remplacera le Wi-Fi actuel, donc c'est peut-être le Wi-Fi du futur sur des communications à très très haut débit intra-bâtiment. Quoi.
Donc vous vous positionnez un peu en amont,
en
déjà
amont,
de l'apparition des technologies dans les foyers des Français.
Exactement.
Quoi. D'accord, alors c'est super intéressant puisque dans l'une de vos productions scientifiques, on peut lire ceci, je vous cite, « L'utilisation de rayonnements électromagnétiques aux alentours de 60 GHz soulève quelques inquiétudes puisque ces radiations sont absentes du spectre naturel. » et les organismes vivants n'y ont jamais été exposés dans des conditions naturelles. Alors, est-ce qu'on peut conclure que l'homme serait donc exposé aujourd'hui à des radiations inédites par rapport à tout ce que notre évolution nous a fait connaître jusqu'ici ?
Oui, bien sûr. Ouais. Les ondes aux alentours de 60 GHz sont absorbées par l'oxygène de notre atmosphère. Donc, la source principale d'ondes électromagnétiques, c'est notre Soleil. Mm-hmm. Et donc, il y a certaines radiations qui arrivent jusqu'à la Terre, transparentes. Notre atmosphère est complètement transparente à ces ondes. C'est la lumière, Dieu merci. C'est grâce à ça que l'on voit les infrarouges, ce qui réchauffe aussi la Terre. Mais certaines radiofréquences et puis les ondes millimétriques, elles sont absorbées par l'oxygène moléculaire, par notre atmosphère. Ce qui fait qu'on n'a jamais été réellement confronté à ce type d'ondes. Alors, jamais, c'est un terme mais peut-être un peu fort, parce que en fait, on émet nous-mêmes des ondes électromagnétiques parce qu'on agit comme des corps noirs, mais les niveaux sont extrêmement faibles, pratiquement négligeables. Maintenant, ces nouvelles ondes utilisées, même si on a des ondes naturelles que l'on capte, par exemple les ondes radio, on a de l'espace des ondes radio qui arrivent, mais l'utilisation par l'homme des ondes radio fait qu'on va utiliser ces ondes à des niveaux plus forts, de façon à ce que le bruit de fond naturel n'interfère pas avec le récepteur. Donc qu'elle soit naturelle à des niveaux très très forts, très très bas, pardon, ou qu'elle n'existe pas, de toute façon, à chaque fois qu'après l'homme va utiliser ces ondes, il va émettre soit à des niveaux plus forts, si elles existent déjà, soit à des niveaux avec des ondes qui n'existent pas naturellement. Donc oui, on est maintenant perpétuellement exposé à des ondes, soit on n'a jamais été confronté à ces ondes-là, soit c'est à des niveaux beaucoup plus forts que ce qui était naturellement.
Alors l'homme n'a jamais connu ça, peut-être une question un peu grossière, mais limite, on pourrait peut-être parler de darwinisme électromagnétique. Est-ce que c'est une question de l'évolution aussi
Il faudrait d'abord que ces ondes aient réellement un impact, et ça, pour l'instant, la question, elle est toujours en suspens. On est toujours dans le doute scientifiquement parlant. Donc avant qu'il y ait une pression de sélection, il faudrait vraiment que l'action de ces ondes ait un impact très très fort sur la santé. De plus, c'est pas parce que quelque chose n'est pas naturel qu'il est forcément dangereux. On a des textes du 18e siècle, 19e siècle pardon, avec l'avènement du train, où il y avait des médecins très célèbres qui s'insurgeaient contre cette invention en disant « mais vous vous rendez compte à quelle vitesse on va, mais l'homme ne peut pas respirer à plus de 50 km/h et tout, c'est pas naturel, donc on va vers un danger ». Et puis la preuve que non, quoi. Maintenant on le sait. Mais... Donc on a raison peut-être de se méfier quand quelque chose est nouveau, mais c'est pas parce que c'est nouveau que c'est obligatoirement dangereux.
Alors vous, en ce qui concerne donc l'étude des effets potentiels des ondes, votre porte d'entrée, ça va être donc les processus cellulaires liés au stress. Vous pourriez peut-être nous expliquer pourquoi.
Alors c'est pas le stress psychologique, faut bien comprendre ça. C'est le stress au niveau cellulaire, ce qu'on appelle par exemple le stress génotoxique, c'est-à-dire toute altération au niveau des gènes, au niveau de l'ADN. Ou le stress protéotoxique, c'est toute altération au niveau de la structure des protéines, et aussi le stress oxydant, donc c'est tout l'environnement physico-chimique de la cellule qui peut être affecté, ce qu'on appelle le stress cellulaire. Alors pourquoi nous on étudie ça ? C'est principalement parce que ces aspects de stress cellulaire sont impliqués dans tout un tas de pathologies. C'est souvent la base, le démarrage de tout un tas de pathologies, du cancer aux maladies neurodégénératives, etc., au vieillissement, à ses naissances... Donc c'est intéressant d'essayer de voir par ce biais si jamais l'exposition induit des niveaux de stress cellulaire supplémentaires par rapport à la normale. Quoi.
D'accord, bon, on va revenir un peu sur tout ça au cours de l'émission. Moi, j'aurais d'abord voulu savoir s'il y avait peut-être d'autres moyens que l'étude des processus cellulaires pour déceler les effets potentiels des ondes millimétriques, ou est-ce qu'il s'agit peut-être du plus efficace, je ne sais pas.
La notion d'efficacité en science, elle est toute relative, en fait. Non, il y a beaucoup d'études ou de moyens d'études très, très différents qui sont très complémentaires les uns des autres. Donc, l'intérêt en science, c'est de ne pas utiliser une seule technologie. C'est sûr qu'un chercheur donné va plutôt se consacrer soit à des études in vitro, in vivo, ou études cliniques ou épidémiologiques. Ça dépend de sa propre formation. Mais l'avancée que l'on aura en règle générale, c'est la somme de toutes ces études à différents types de niveaux, qu'ils soient moléculaires, cellulaires, au niveau de l'organisme avec les études in vivo, au niveau de l'homme en lui-même avec les études cliniques, ou les études épidémiologiques qui essayent de voir des corrélations statistiques entre des événements. Voilà, chacune a des points forts, chacune a des points faibles par rapport à ça.
Alors, l'une des plus connues, finalement, enfin, j'ai l'impression que c'est peut-être de rentrer dans le sens commun, mais je sais, on n'est plus vraiment si sûr de la véracité du propos. C'était de considérer que la proximité du téléphone portable avec les organes génitaux masculins, par exemple, causait des problèmes dans la qualité des spermatozoïdes des hommes. C'est quel type d'étude, ça c'est,
Alors ça a été des études principalement in vitro qui ont été faites par des personnes qui ont récupéré du sperme humain et puis qui les ont mis au contact, soit du téléphone portable, soit d'ordinateurs. Vous savez, les ordinateurs que l'on met sur ses genoux, par exemple, pour taper et puis utiliser le Wi-Fi là-dessus. C'est des études qui sont quand même un petit peu controversées parce que la qualité technique de ces études laisse un peu à désirer. C'était des équipes qui étaient des équipes de biologistes qui ne maîtrisaient pas forcément le système d'exposition. Et il se peut très bien que ce soit des effets thermiques liés à l'électronique aussi. Donc c'est des études qui quand même demandent réplication parce qu'on n'est pas vraiment sûr que ce qu'ils voient, c'est les effets des ondes et non pas les effets d'échauffement dû au matériel. Donc là, moi, j'aurais quelques petites réserves sur ces études là-dessus. Par contre, ils ont regardé, oui, au niveau in vitro, s'il y avait des cassures d'ADN, s'il y avait des stress oxydants, ils ont trouvé des effets, mais on aurait trouvé les mêmes effets si on avait chauffé sans avoir les ondes. Donc c'est pour ça qu'elles demandent quand même réplication.
D'accord.
Et dans ce domaine du bioélectromagnétisme, il y a énormément d'études comme ça qui sont faites par des personnes qui... ont soit beaucoup de compétences en biologie mais pas en électronique, ce qui fait qu'il y a des problèmes au niveau du système d'exposition, ou à l'inverse, des électroniciens qui ont beaucoup de compétences pour faire un système d'exposition avec les ondes électromagnétiques, mais qui ont peu de compétences en biologie et ça manque de contrôle. Donc toutes les études scientifiques qui sont publiées ne sont pas à prendre comme des vérités pures. Ce qu'il faut, c'est quand même avoir un regard critique là-dessus pour essayer de savoir qu'est-ce qui se passe réellement.
Vous mentionnez aussi dans votre réponse tout à l'heure l'existence donc d'études épidémiologiques. Vous disiez que chaque type d'études finalement avait ses plus et ses moins. On pourrait peut-être revenir un peu sur les études épidémiologiques, puisqu'il me semble que c'est celles qui sont le plus mentionnées, du moins dans les médias, dès qu'on parle de l'impact des ondes sur notre santé. Comment elles sont conduites, ces études? On rappelle que c'est souvent sur l'étude d'un phénomène sur un groupe populationnel bien défini. Quels sont ces plus, quels sont ces moins?
Alors, ce qui est intéressant dans les études épidémiologiques, c'est qu'elles font des liens statistiques. Donc, c'est des choses qui permettent d'agiter des petits drapeaux rouges en disant, attention, il y a peut-être un lien quelque part ici entre telle observation et puis telle condition. Par contre, c'est jamais des liens de cause à effet. Par exemple, il y a un exemple assez connu dans le monde de l'épidémiologie où un étudiant dans les années 50 ou 60, je ne sais plus, s'est amusé à compter le nombre de nids de cigognes et le nombre d'enfants qu'il y avait par famille. Et il y a une corrélation statistique. Mais ça ne veut pas dire que les cigognes amènent les enfants, n'est-ce pas? Donc il faut quand même se méfier. Maintenant, il peut y avoir des liens, ils peuvent être très très indirects, c'est jamais des causes à effet. Maintenant, pour le domaine de bioélectromagnétisme, c'est assez compliqué pour les personnes qui travaillent là-dessus parce qu'il faut essayer d'estimer l'exposition des personnes. Alors ça, c'est pas simple. Soit on demande aux personnes d'essayer d'estimer à quoi ils sont exposés. Vous seriez sans doute incapable de faire cette estimation. Donc c'est pareil pour toutes les personnes qui sont questionnées. Donc c'est très difficile de les classer en fonction des personnes très exposées, peu exposées, etc. Donc les premières études épidémiologiques n'étaient pas simples à cause de ce classement. Ensuite, ils ont commencé à croiser un peu les données de téléphone portable, c'est-à-dire on voyait l'utilisation du téléphone portable par les personnes. On a pu commencer à faire des classements qui sont un peu plus intelligents, on va dire. Mm-hmm. Mais ça, ce n'est qu'une partie de l'exposition. Vous êtes exposé avec le téléphone portable, c'est vrai, mais également avec les antennes relais, avec tout un tas de choses. Donc c'est également là, il y a des biais. Et puis, ce qui ressort des études épidémiologiques, c'est que sur la population générale, il semble ne pas avoir d'effet. Les seuls effets qui, peut-être, semblent ressortir, c'est pour les personnes qui utilisent le téléphone depuis très longtemps, plus de 10 ans, et qui l'utilisent beaucoup, pratiquement une heure par jour sur 10 ans. Et là, il y a un doute sérieux. Il y a deux études de deux équipes indépendantes qui semblent montrer une légère augmentation du risque de cancer du cerveau pour ces gros utilisateurs. Maintenant, c'est des tout petits effectifs, ce qui fait que d'un point de vue, parce qu'il y a très peu de personnes qui utilisent depuis très longtemps, donc du coup, la puissance statistique n'est pas sûre à 100%, et il y a toujours ces controverses-là. Néanmoins, c'est des petits drapeaux rouges qui, nous, scientifiques, nous intéressent, parce qu'après, maintenant, il va falloir faire des études au niveau, justement, cellulaire, au niveau in vitro, in vivo, pour essayer de voir s'il n'y a pas des mécanismes sous-jacents à ça qui pourraient expliquer ces observations.
D'accord. Alors on l'a précisé, hein, les effets potentiels que pourraient avoir les ondes électromagnétiques sur l'organisme donc sont encore largement méconnus ou du moins très controversés, hein, vous nous l'avez rappelé. Pourtant on distingue quand même tout de même deux grandes catégories d'effets biologiques de ces ondes là, qu'on connaît par contre, les ondes thermiques... les ondes thermiques et non thermiques, c'est bien ça. Est-ce que vous pourriez peut-être nous préciser un peu tout ça ?
Oui, alors les effets thermiques, vous les connaissez, c'est l'effet micro-ondes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les ondes électromagnétiques ont un champ électrique. Et ce champ électrique, toute molécule qui est chargée électriquement dans un champ électrique va avoir tendance à s'orienter. Le plus est attiré par le moins, etc. Et donc les molécules d'eau qui sont chargées dans un champ électrique, elles vont s'orienter. Sauf que le champ électromagnétique, c'est des oscillations. Autrement dit, le champ électrique n'arrête pas de changer, de s'intervertir. Un coup, il est en haut, un coup, il est en bas. Mm-hmm. Et la vitesse d'oscillation est très importante. Moi, je travaille sur des ondes de 60 GHz. 60 GHz, ça veut dire qu'on a ce retournement du champ électrique et du champ magnétique 60 milliards de fois par seconde. Donc vous imaginez bien que les molécules d'eau dans ce champ-là vont se mettre à se retourner comme des folles à l'intérieur des cellules, et il y aura des frictions, et ça va être un effet thermique qui va apparaître. C'est l'effet micro-ondes, c'est comme ça que vous chauffez votre café ou votre lait le matin avec un four micro-ondes. Donc on a ce même phénomène avec les radiofréquences, avec les ondes millimétriques, etc. Donc il faut s'en prémunir, parce que ça c'est évident, on ne va pas mettre à sécher un chat dans un four micro-ondes, il va mourir par hyperthermie, c'est sûr et certain. Donc toutes les normes à l'heure actuelle sont basées sur ces effets thermiques qui sont très bien documentés, qui sont compris, ça c'est les effets avérés, ce sont ces effets thermiques. Maintenant, il y a peut-être autre chose que ce retournement et puis ces effets thermiques. Et c'est là qu'on n'est pas d'accord, parce que quand il y a des chercheurs qui commencent à trouver un début de piste, souvent d'autres équipes, quand ils essayent de refaire les manips, ne retrouvent pas forcément les mêmes résultats. Donc il est fort possible qu'il y ait d'autres impacts que ces agitations moléculaires, mais pour l'instant, ils ne sont pas bien déterminés. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'ils ne sont pas avérés, parce que quand on essaye de refaire les manips, on n'arrive pas à les reproduire tout le temps, systématiquement. Ça a l'air de dépendre du système d'exposition, du modèle biologique, de tout un tas de paramètres qu'on ne maîtrise pas bien. Et donc ces effets non thermiques font encore l'objet de recherches pour essayer de voir s'il n'y a pas autre chose.
Bon, c'est le moment dans le labomatique de se donner un peu de grain à moudre. Je vais vous proposer donc, Yves Le Drian, d'écouter une petite interview que j'ai réalisée en compagnie de Marc Brunet. Donc, il est ingénieur de recherche à l'IETR à Nantes et il a participé au développement d'une coque de smartphone anti-radiation en partenariat avec une société, donc c'était Defasium Limited. Cette coque, elle permet de réduire jusqu'à 99% le rayonnement des ondes. On écoute ça, on va en échanger ensuite, sachant que le postulat de départ de cette innovation technologique, c'était pas d'affirmer que les ondes électromagnétiques ont un impact sur la santé.
Le Labomatique,
l'émission scientifique de Radio Campus.
Notre travail, en fait, est fait effectivement avec la société Defasium, qui est venue nous voir en 2007, parce qu'ils souhaitaient développer un concept... c'est-à-dire basé sur la protection des utilisateurs d'un téléphone portable des ondes électromagnétiques qui sont produites par ce téléphone. Donc nous, avec Joseph Saillard, qui est professeur à l'Université de Nantes, on a réfléchi à la question et en 2008, on a pu proposer une solution pour répondre à cette problématique. Alors en fait, la société Vephasium a prospecté différents laboratoires puisqu'ils avaient besoin d'une expertise technique pour essayer de trouver une solution qui puisse convenir à leurs objectifs. Donc ils sont venus voir donc l'IETR puisqu'on est un laboratoire de télécommunications. Donc ils nous ont demandé si on pouvait vraiment trouver quelque chose qui pouvait convenir. Et là-dessus, Joseph Saillard, donc professeur à l'université, a proposé l'idée d'un panneau réflecteur qu'on placerait en fait entre le téléphone et l'oreille de l'usager. Donc la répartition du travail entre la société Vephasium et donc l'Université de Nantes par l'IETR, c'était d'une part l'idée, le concept technique qui était notre propriété à nous, que l'on a pu ensuite se partager donc, avec cette société pour développer complètement le système d'étui pour téléphone portable.
Est-ce qu'il s'agissait d'une innovation véritablement nouvelle, ou est-ce que vous vous êtes appuyé sur des projets ou des produits qui existaient déjà, mais tout en tentant de les dépasser ?
Alors en fait, il existait déjà des produits pour se protéger des ondes électromagnétiques, et donc après avoir testé donc un système, il s'avérait que les produits existants n'étaient pas forcément de très bonne qualité. Donc l'idée était vraiment de trouver une technologie qui permette de répondre efficacement donc à cette problématique. Donc là, le principe qui a été retenu, c'est le panneau réflecteur, hein, qui est un principe qui est connu, hein, qu'on utilise pour l'optique, par exemple pour un abat-jour, on va mettre un panneau réflecteur pour orienter la lumière vers un endroit bien précis. Et là, le principe, c'est la même chose. On a une onde électromagnétique qui est produite par le téléphone. Eh bien, on va essayer d'orienter cette onde pour éviter qu'elle passe vers la tête de l'usager.
Alors, j'imagine aussi que cette collaboration avec une entreprise privée, hein, faut le rappeler, le produit est commercialisé actuellement. Est-ce que ça vous a confronté à des contraintes un peu particulières ? J'imagine, par exemple, en termes de design du produit, est-ce que ça a été quelque chose qui a été un enjeu dans cette collaboration ?
Alors, tout l'enjeu, en fait, se situe à ce niveau-là, effectivement. Nous, quand on a proposé l'idée du panneau réflecteur à la société Vephasium, c'était un produit vraiment, même pas un prototype, c'était un concept. Donc il était à l'époque pas encore concevable de l'intégrer sur l'étui d'un téléphone. Donc il a fallu vraiment développer ce concept pour réduire les dimensions et pouvoir l'intégrer donc, sur un étui de sorte que le consommateur puisse acheter cet étui de protection en ayant un étui qui soit vraiment qui corresponde bien à ce qu'il souhaite en termes en tout cas de design.
Cette innovation technologique, donc vous l'avez nommée Ancilia, ce qui signifie bouclier en latin. Vous nous avez déjà un peu expliqué la façon dont ça fonctionnait, mais je le rappelle, ça filtre 99% des ondes, ce qui veut dire qu'il y a des résidus qui continuent tout de même de passer. Est-ce que vous auriez peut-être des précisions à ce niveau ?
Alors, effectivement, il y a des résidus qui passent parce que idéalement, si on souhaite qu'il n'y ait plus de résidus, il faudrait vraiment enfermer le téléphone dans une coque complète, métallique. Mais dans ce cas, donc, il n'y a plus la possibilité de communication avec une antenne relais. Donc là, le téléphone n'a plus sa fonction. Donc l'idée, c'est déjà d'avoir une efficacité. Si on peut obtenir déjà les 99%, ça veut dire qu'il n'y a plus grand-chose, il n'y a plus beaucoup d'ondes qui passent au niveau de la tête. En tout cas, pas beaucoup de puissance. Donc, beaucoup d'échauffement thermique et on protège quand même, à mon avis, vraiment particulièrement l'usager.
C'est aussi une innovation, il me semble, qui a des performances plutôt intéressantes en matière d'acoustique, si je ne me trompe pas.
Alors, effectivement, la société Vephasium, une fois qu'on avait fait notre prototype, a fait soumettre cet étui à un panel d'utilisateurs et ce panel a remarqué que en termes d'audition, ça fonctionnait pas mal. Alors ça s'explique par le fait qu'on a un interstice finalement entre l'écran et l'étui du téléphone. Il faut noter aussi, enfin ça n'a pas été dit, quand on téléphone, Donc, quand on met le téléphone à son oreille, et pour que ça fonctionne, pour que la protection fonctionne, il faut refermer l'étui. Donc, le fait que l'on referme l'étui, donc on crée un interstice entre l'étui et le panneau réflecteur, et ça fait un peu cage de, ça nous crée une cage pour améliorer en fait le son du téléphone. Enfin, c'est une constatation qui a été faite par le panel. Hein.
Et est-ce que cette collaboration va mener peut-être à des publications? Est-ce que ça a été peut-être aussi pour vous l'occasion de peaufiner certains chantiers de recherche? Je ne sais pas.
Alors, pour nous, l'intérêt premier de cette collaboration, ça a déjà été, dans un premier temps, de proposer le concept, d'établir des brevets en termes déjà d'idées, hein, de concepts, et puis de dimensionnement en fait du produit. Ce qui est intéressant, c'est que la société Defasium a pris en charge toute la partie rédaction et puis toute la partie économique qu'il y a autour de la mise en place des brevets. Donc pour nous, déjà, dans un premier temps, c'était quelque chose de très important. Après, nous, la collaboration avec la société Defasium est intéressante maintenant, puisque on a une copropriété au niveau des brevets, donc une arrivée d'argent pour le laboratoire.
Le Labomatique.
L'émission scientifique de Radio Campus Rennes.
De retour dans le Labomatique sur Radio Campus Rennes, toujours avec Yves Le Drian, donc chercheur au sein de l'équipe Transcription, Environnement et Cancer au sein de l'Institut de Recherche sur la Santé, l'Environnement et le Travail, l'IRSET. Donc Yves Le Drian, on vient d'entendre Marc Brunet dans cette interview qui nous rappelait hein, que cette collaboration avec la société Defasium, elle n'avait pas eu pour point de départ hein, l'idée que les ondes ont un impact. Elle n'affirmait pas que les ondes ont un impact sur la santé. De ce point de vue, on vous l'avait rappelé, hein, il n'y a toujours pas de certitude. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on parvient quand même à penser des technologies qui sont capables d'agir sur ces impacts potentiels. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, par rapport à vos différents chantiers de recherche?
Non, ça répond à un besoin. Hein. Il y a des personnes qui se méfient un peu de ces ondes. Et puis, c'est vrai qu'on est, comme je vous le disais, un petit peu dans le doute scientifique. C'est-à-dire que pour les effets à très très long terme, il y a quand même des études épidémiologiques qui soulèvent des questions. Donc, dans le doute, oui, essayer de limiter son exposition, c'est pas stupide. Hein. Et puis, vaut mieux que ce problème, cette réponse à un besoin sociétal de certaines personnes qui veulent se protéger des ondes soit prise en compte ou prise en charge par des chercheurs reconnus dans le domaine plutôt que par des charlatans qui vont vendre des petites pastilles qu'on met sur le téléphone et qui vont trier les bonnes ondes des mauvaises ondes. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on achète. Vaut mieux que ça soit estampillé d'un institut de recherche sérieux et reconnu que quelque chose qu'on prend sur le net avec de la peinture ou je sais pas quoi, des petites choses qui n'ont absolument aucun effet, quoi.
On peut imaginer, peut-être dans vos recherches, de fonctionner, par exemple, d'obtenir des résultats hein, concrets en fonctionnant par comparaison peut-être avec et sans technologie pensée comme ça par les instituts de recherche en électronique. Ce serait pertinent ou...
C'est-à-dire,
par exemple, essayer, je ne sais pas moi, de mesurer l'impact des ondes d'un téléphone et lui ajouter la coque de smartphone ou peu importe le type d'innovation et de remesurer et voir un peu... les différences qu'il y aurait.
Ça pourrait se faire si jamais on avait des effets reproductibles que l'on voit systématiquement. Maintenant, il faut voir que dans nos recherches, nous, on ne met pas nos cellules, parce que moi je travaille au niveau cellulaire, au contact d'un téléphone portable, parce que si vous mettez ça au contact d'un téléphone portable, vous avez l'électronique, la batterie, vous ne saurez pas si ce que vous voyez c'est l'effet réellement du rayonnement électromagnétique, ou si c'est l'effet des courants induits ou de la batterie qui chauffe un peu mon échantillon. Donc on a des systèmes d'exposition qui sont totalement différents d'un téléphone classique, justement pour pouvoir contrôler notre exposition. Et d'ailleurs, on travaille en collaboration avec l'Institut d'électronique et télécommunication de Rennes, donc on est vraiment un consortium. Moi, je suis biologiste, je m'occupe de la biologie, mais je travaille avec des électroniciens qui ont monté ce système d'exposition de façon à ce qu'on sache exactement à quel type d'onde, à quelle puissance nos cellules sont exposées. Donc ça, c'est hyper important, parce que sans ça, on peut avoir ce qu'on appelle des artefacts, c'est-à-dire des faux résultats qui sont dus tout simplement au système, à l'électronique qui chauffe, et puis si on chauffe nos cellules, on va avoir des effets biologiques, mais ce ne seront pas dus aux ondes. Donc il faut faire très très attention à la rigueur scientifique dans ce domaine.
Alors, qu'est-ce que vous êtes en mesure d'affirmer aujourd'hui par rapport à vos différents travaux en matière d'impact des ondes sur la santé? Qu'est-ce que vous obtenez comme type de résultat?
Alors, nous, ce que l'on voit à l'heure actuelle au laboratoire, ce qu'on peut mettre en avant, c'est que sur des cultures de cellules, tant qu'elles sont en forme, dans des conditions de culture où tout se passe bien pour elles, si on reste dans des expositions à des niveaux de puissance tels qu'on n'a pas d'effet thermique, on ne voit rien du tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à mettre en évidence de stress cellulaire tant qu'on est dans des conditions athermiques, c'est-à-dire sans effet thermique. Par contre, là, on a commencé à avoir des petits frémissements au laboratoire, c'est quand on a commencé à faire des co-expositions. Avec des co-expositions, c'est-à-dire qu'on cultive nos cellules non pas dans les conditions idéales, mais on commence à les stresser par d'autres sources de stress, soit des drogues, des molécules qui vont altérer leur métabolisme, par exemple, où on leur donne un petit stress thermique aussi. Et là, on voit que la capacité des cellules à répondre à ce stress induit par une autre source, sous exposition, sont légèrement altérées. Alors c'est pas énorme, c'est un petit frémissement, donc on est en train de se demander si on n'est pas au début d'une affaire quelconque et si il faut pas maintenant donner le caractère temporel un peu, non pas regarder des expositions aiguës à court terme sur des cellules, mais peut-être des expositions à beaucoup plus long terme. Donc on est là dans notre réflexion. Donc à l'heure actuelle, par rapport au risque, on va dire, sur les travaux de notre équipe, mais également tout ce qui ressort un peu de la bibliographie scientifique dans le domaine. Moi, j'ai une image un peu pour présenter ça, je vais vous la donner rapidement. C'est l'image d'un funambule sur un fil, qui symbolise en fait l'homéostasie cellulaire, c'est-à-dire l'équilibre qu'il peut y avoir à l'intérieur d'une cellule pour que la cellule fonctionne parfaitement. Suite aux travaux qui ont été faits dans les années 90-2000, ce qu'on a regardé, c'est est-ce que l'exposition aux ondes, c'est un stress suffisamment fort pour complètement perturber l'homéostasie cellulaire, c'est-à-dire comme si je poussais violemment mon funambule et je le fais tomber. Et là, clairement, la réponse, c'est non. On ne se met pas en danger, que ce soit au niveau des organismes ou au niveau cellulaire, qu'on peut regarder au niveau cellulaire, moléculaire, si on a une exposition aiguë, brusquement, juste comme ça, sur quelques minutes, quelques heures, etc. Par contre, il y a certains chercheurs qui voient des petites choses. Comme si à la place de pousser mon funambule, je le touchais légèrement avec le doigt. Ce qui fait que j'oblige le funambule à réagir, mais il ne tombe pas. Soit un petit coup de poignet, un petit coup avec les chevilles, et il retrouve son équilibre. Ce qui pourrait expliquer pourquoi certains chercheurs voient des choses et d'autres ne regardent pas. Il est évident qu'un chercheur qui regarde, qui se focalise sur le mouvement de la tête, si jamais, quand on pousse le funambule, il bouge juste le poignet, il ne verra rien du tout. Maintenant, celui qui regarde le poignet, ok, il voit un petit quelque chose. Et puis, il y a l'aspect timing aussi qui est important. Si c'est très transitoire, parce que ce n'est pas violent comme geste, et ben, il y aura un petit mouvement, puis après, retour à l'état normal. Ce qui fait que le chercheur qui regarde au bon moment, il le voit. Celui qui regarde un petit peu avant, ne le voit pas. Celui qui regarde un petit peu après, ne le voit pas. Et je pense qu'on est un peu dans cette situation-là à l'heure actuelle, ce qui explique un peu la polémique scientifique. Il y a peut-être un petit quelque chose, un petit frémissement qui se passe sous exposition. Ce n'est pas violent. Mais ça dépend des modèles, qu'est-ce que l'on regarde, etc. Maintenant, la question qui revient, ok, ça bouge un petit peu, mais plaçons-nous maintenant dans les effets exposition à long terme. Qu'est-ce qui va se passer si, à force de pousser mon funambule, comme ça, tout le temps, pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, est-ce que je ne vais pas finir par l'avoir par l'usure et le faire tomber? Donc là, on en est là à l'heure actuelle. On ne sait pas, on n'a pas la réponse à l'heure actuelle. Peut-être qu'on pourra le pousser pendant toute la vie. On n'arrivera jamais à le faire tomber. Et peut-être qu'on finira par l'avoir à l'usure. Ou alors peut-être que tous les funambules, c'est-à-dire toutes les personnes, ne sont pas avec la même capacité à répondre à ce stress. Il y a peut-être des personnes qui sont un petit peu moins équilibristes et qui, elles, vont finir par tomber. Donc avoir des problèmes suite aux expositions. Et d'autres n'auront rien du tout. Et puis il y a l'effet des co-expositions, c'est-à-dire que les ondes peut-être seules n'ont rien du tout, mais peut-être ondes plus un autre polluant environnemental va peut-être avoir un effet. C'est comme si le funambule, je le distrais par autre chose, donc il est moins concentré, et puis au final, je vais finir par le faire tomber. Donc on est là vraiment à l'heure actuelle dans cette optique de faire des recherches à long terme, peut-être pas les ondes seules, les ondes plus autre chose, et puis également les prédispositions que peuvent avoir les gens. Enfin, nous, au laboratoire, c'est cette réflexion que l'on a et c'est dans cette voie-là qu'on va se diriger à l'heure actuelle.
Vous soulignez aussi donc, la variété des protocoles expérimentaux hein, mis en œuvre par les différentes équipes de recherche. Mm-hmm. Vous pourriez peut-être nous éclairer un peu sur la façon dont vous travaillez, votre méthodologie de travail, pour qu'on comprenne un peu comment vous obtenez ces résultats.
Oui, alors moi de formation, hein, je suis biochimiste, donc je regarde au niveau des molécules et de la cellule, parce que j'ai aussi une formation après de biologiste cellulaire. Donc l'idée, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe au niveau des molécules dans la cellule, voir si on a des dérèglements par rapport à ce qui se passe normalement, et qui pourraient avoir un impact après au niveau de l'organisme et expliquer après des pathologies qui pourraient apparaître plus loin. Donc on expose des cellules humaines en culture, on a un système d'exposition qui permet comme ça de les exposer à différentes fréquences, différentes puissances, différents signaux. Et après, on récupère ces cellules et puis soit on les analyse par microscopie, on a des marqueurs fluorescents qui nous permettent de voir l'expression de certaines protéines, de voir la morphologie. Et puis également, on peut purifier tout un tas de molécules qu'il y a à l'intérieur de la cellule et puis essayer de quantifier tout ça. On a beaucoup travaillé au niveau de l'expression génétique, pour essayer de voir si, sous exposition, les cellules changent leur expression. L'idée, c'était d'essayer, comme on ne sait pas exactement ce qui peut se passer, on s'est dit, on va faire confiance à la cellule. Si jamais elle arrive à sentir ou être perturbée par des expositions, on sait qu'au niveau cellulaire, on a des réponses qui sont très stéréotypées. Mmh. Et la cellule va se mettre à, en cas de danger, en cas de modification de son homéostasie, c'est-à-dire son équilibre, elle va se mettre à synthétiser des facteurs qui lui permettra de s'adapter. Nous, ce qu'on voyait, ce qu'on voulait voir, c'est est-ce qu'on avait cette modification au niveau de l'expression génétique qui nous permettrait de nous mettre sur une piste, comment la cellule arrive à sentir qu'elle est exposée et comment elle réagit. Et c'est là qu'on a vu que si la cellule est vraiment dans un état bien, hein, sans aucun problème, rien ne bouge. Et qu'on commence à voir les choses bouger seulement si on stresse déjà la cellule. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que cette réaction adaptative, elle est légèrement modifiée sous exposition.
J'aimerais qu'on rebondisse peut-être sur une expression que vous avez employée comme ça, l'air de rien, au détour d'une phrase, mais la question de la gestion du risque que vous avez employée. Est-ce que vos recherches mèneront peut-être prochainement, dans des années, hein, peut-être des décennies, je ne sais pas, à formuler des préconisations peut-être en termes de gestion du risque ?
Oui, sans doute peut-être remanier les normes, les normes actuelles qui sont basées que sur les effets thermiques. Nous, à l'heure actuelle, dans le millimétrique, on s'aperçoit que les normes actuelles, pour des applications en champ proche, c'est-à-dire pour des systèmes où on aura, par exemple, les antennes à même la peau, pour les vêtements intelligents, des trucs un peu de ce style, et ben la norme actuelle est peut-être un petit peu trop permissive, parce qu'elle permet des effets thermiques. C'est-à-dire qu'on peut avoir des échauffements, qu'il faut éviter d'avoir ces échauffements, donc peut-être que nos travaux permettront de réajuster un petit peu ces normes pour éviter tout effet là-dessus. Et puis après, si jamais, nous on espère quand même découvrir des choses, trouver un peu ce qui se passe, si on arrive à trouver un mécanisme, donc là on arrivera à bien comprendre ce qui se passe et là on pourra peut-être donner des préconisations, attention, éviter d'être exposé à tel niveau parce que c'est là qu'on commence à avoir les seuils d'apparition de ces phénomènes biologiques, etc.
D'accord, on le voyait tout à l'heure avec Marc Brunet, le développement donc de la technologie Ancilia, hein, bouclier en latin, qui est déjà commercialisé pour certaines marques de smartphones. Est-ce qu'on pourrait imaginer aussi un espèce de principe de précaution industrielle et imaginer l'introduction de ce genre de technologie dès la fabrication des nouveaux objets d'information et de la communication ?
Oui, c'est vrai que souvent il y a quand même un décalage. Hein. C'est-à-dire que les personnes qui développent un peu tous les systèmes de télécommunication au départ, je pense que de toute bonne foi, elles étaient persuadées qu'il n'y allait avoir aucun problème au niveau de la santé. Et que le seul problème qu'il pouvait y avoir, ce sont les effets thermiques. Donc ils ont cherché à se protéger de ces effets thermiques. Donc ils sont partis de ce postulat-là, pas des faits, donc ils n'ont pas pensé à regarder tout ça. Maintenant, nous, notre laboratoire, on est clairement en amont. C'est-à-dire que nous, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille sur les ondes millimétriques. Avant qu'elles apparaissent, on savait, les électroniciens avec qui je collabore savaient que ça allait venir dans la décennie. Et donc, on a, en amont, essayé de travailler pour voir si les normes actuelles qui avaient été données par extrapolation sont toujours valables, etc. Donc, c'est quand même plus ou moins pris en compte aussi. Maintenant, ça dépend... quelles sont les équipes de recherche mises en place. C'est-à-dire que pour développer de l'électronique, on a besoin d'électroniciens, mais ces électroniciens n'auront pas la capacité de regarder l'impact potentiel que peuvent avoir ce qu'ils fabriquent sur le vivant.
Il y a un enjeu pluridisciplinaire.
Il y a un enjeu pluridisciplinaire. Donc, toutes les universités n'ont pas cette capacité d'avoir des équipes d'électroniciens et de biologistes qui sont voisins et qui communiquent ensemble. C'est l'avantage de l'Université de Rennes, là-dessus.
Le Labomatique,
l'émission scientifique de Radio Campus Rennes.
Et bien sur ces belles paroles, merci Yves Le Drian d'être venu nous rendre visite dans le Labomatique. Je le rappelle, vous êtes chercheur à l'IRSET, donc c'était un sujet passionnant. Et comme chaque semaine, vous pouvez bien sûr le retrouver en podcast, sur le site de Radio Campus Rennes, www.radiocampusrennes.fr. Une fois encore, merci Yves Le Drian d'être venu nous voir.
Je vous remercie, au revoir.